tontos.
Hello, bienvenue sur Bike FM 106.1, bienvenue dans l'émission Check Me Load, c'est votre émission métal qui commence. Et pour ce vendredi, eh bien, j'ai dans mon escarcelle maléfique quelques nouveautés, une interview et puis plein de news ainsi qu'une petite reprise que je vous proposerai en fin d'émission dans la rubrique Sortez Covers. Alors j'ai trois grosses sorties à vous proposer aujourd'hui. L'interview du jour, elle sera pas métal exceptionnellement. On va aller plutôt vers du rock alternatif. Je vais vous emmener découvrir un groupe qui a un très très fort potentiel. Un groupe qui nous vient de la région lilloise. Leur nom c'est Holy Spark. Ils ont sorti le 2 février leur tout premier album qui s'appelle Sonic Bloom. Et tout à l'heure on aura la chanteuse Manon qui sera avec nous pour donc nous présenter sa formation et nous présenter le premier album du groupe Holy Sparks. Ça, ce sera dans à peu près une demi-heure. Et puis, en attendant, on va s'intéresser aux nouveautés du jour. Pas mal hein, pour ce 16 février. On a notamment trois gros trucs. Alors, vous allez avoir du métal français, vous allez avoir du métal américain et puis un groupe brésilien aussi. J'ai un groupe suisse aussi, mais je pense pas qu'on aura le temps, mais ça fait rien. Je vous le mets de côté pour la prochaine émission. C'est pas grave, ça n'est que partie remise. Et la grosse sortie du jour, on va faire honneur à un groupe hexagonal, puisque c'est le nouvel album de Satan Jokers, qui s'appelle Symphonic Commando, et donc voilà, qui paraît aujourd'hui. Alors Satan Jokers, faut quand même faire un petit point sur l'histoire de ce groupe, qui est assez ancienne, puisque le groupe est né à Paris en 80. Il a été créé par, à l'époque, le batteur Renaud Hampton, qui va devenir ensuite le chanteur, hein. Aujourd'hui, il en est le chanteur d'ailleurs, et par le bassiste Laurent Bernat. Le duo va être vite rejoint par un chanteur, Pierre Guiraud, par le guitariste Stéphane Bonneau. Et pour la petite histoire, eh bien, le nom de Satan Jokers, ça fait référence à deux bandes de motards rivales des Hells Angels aux États-Unis. On a d'un côté les Satan Slaves, et de l'autre côté, les Gypsy Jokers, et c'est Renaud Hanson hein, qui a eu l'idée de ce groupe. Alors on est dans un style hard rock, de tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Un hard rock, par contre, chanté en français, ça se faisait énormément dans les années 80. Les groupes français chantaient majoritairement en français, comme par exemple les Killers, ADX ou même Trust, hein, pour vous citer l'exemple le plus parlant. En 83, Satan Jokers sort son premier album, c'est Les Fils du Métal. Alors c'est un disque qui va avoir une absence totale de promo et qui va quand même s'écouler à 90 000 exemplaires, qui va même devenir culte, ce qui va être plutôt encourageant alors pour la jeune formation, qui va vite s'atteler à l'écriture d'un deuxième album qui s'appelle Trop Fou Pour Toi, qui arrive en 84. Mais là, ça va être un échec commercial. Et ce sera aussi le cas de son successeur, qui est un maxi qui s'appelle 3 et qui sort en 85. 85, c'est aussi donc l'année où va se séparer Satan Jokers. Alors ensuite, faut bien avouer, on va carrément presque les oublier, hein, les Satan Jokers, ils vont pour ainsi dire sortir de la mémoire de pas mal de monde. Et on va apprendre avec étonnement en 2009, sa reformation, à l'initiative de Renaud Hanson. Donc pour cette occasion, il va constituer un tout nouveau line-up, et alors un line-up de choix, puisqu'on retrouve Pascal Mulot à la basse, qui est quand même un des meilleurs bassistes en France, Michael Zorita à la guitare, et puis Aurélien Ouzoulias à la batterie. Hanson, je vous disais tout à l'heure, il se consacre désormais au chant. Dans la foulée, ils vont nous balancer SJ en 2009, c'est un premier avertissement sonore qui va être suivi quelques mois plus tard par Fetishix, un album qui va être largement salué par les médias et qui sonne comme un retour en force pour les Parisiens, qui vont transformer carrément l'essai en 2011 avec la sortie d'Addiction, qui est un étonnant concept album dont les textes vont être composés par Renaud Hanson en collaboration avec le psychiatre mais néanmoins fan de métal Laurent Carilla, qui à ce moment-là accompagne le chanteur dans sa thérapie pour soigner pour le coup ses addictions. Et le docteur Carilla, il va devenir membre à part du groupe. Il va participer de nouveau à l'écriture d'un deuxième concept album psychiatrique qui paraît en 2013, qui s'intéresse cette fois à différentes pathologies psychiatriques, bien sûr, ça va des TOC jusqu'à la schizophrénie. Et puis enfin, il va y avoir l'ambitieux opéra métal Sex Opéra. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je fais une liaison à ambitieux opéra, enfin bon, peu importe. Sex Opéra, ça paraît en 2014. Et là, le concept, vous aurez certainement deviné, et ça tourne autour des addictions et des perversions liées au sexe. Ce sera le dernier volet de cette trilogie, donc sur les addictions. Alors après ces trois pièces majeures de sa discographie, il était temps pour Renaud Hanson et sa bande de se lancer dans une toute nouvelle aventure. Une aventure qui se concrétise aujourd'hui avec la sortie de l'album Symphonic Commando, où on retrouve Satan Jokers accompagné cette fois d'un orchestre symphonique qui est dirigé par Florent Gauthier. Florent Gauthier, c'est un compositeur émérite, c'est aussi un amateur de heavy metal. C'est lui-même qui a proposé ce projet à Renaud Hanson. Et donc, sur Symphonic Commando, on retrouve 16 titres qui sont issus de toute la discographie de Satan Jokers, qui ont été réarrangés, qui ont été harmonisés par Florent Gauthier, puis enregistrés avec l'orchestre symphonique Phocéen. Et le résultat est véritablement bluffant. On découvre la musique de Satan Jokers sous un angle qui est tout à fait nouveau, à travers un album qui fait presque penser à une BO de film. Je pense que si l'œuvre est présentée en live, il faudra s'attendre à une expérience assez unique. Décidément, Satan Jokers est loin d'avoir fini de nous surprendre. Ils sont tout le temps là où on les attend pas. Voici un extrait de Symphonic Commando avec le morceau qui les a rendus célèbres, un morceau mythique, c'est Les Fils du Métal, qui était paru en 83, qui sont donc ici présentés en version métal symphonique.
dernier soldat du rock and roll. Viens avec nous, nous t'attendons.
Vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Bienvenue à vous sur le 106.1. Vous êtes dans l'émission Check Meload et vous venez d'écouter Satan Jokers avec un extrait du nouvel album Symphonic Commando qui paraît aujourd'hui avec donc le titre Les Fils du Métal. C'est le morceau qui clôt cet album où on retrouve eh bien 16 morceaux du groupe qui sont réarrangés et qui sont interprétés avec un orchestre symphonique. C'est à découvrir absolument. Un projet donc entre Satan Jokers et entre le compositeur de musique classique Florent Gauthier. Voilà pour cette première sortie. On change de style, on change de pays, on va direction les States maintenant avec le groupe Pop Evil qui sort également son nouvel album aujourd'hui. C'est un album éponyme. Alors Pop Evil, c'est un groupe qui nous vient de l'état du Michigan. Ils sont de la même ville que Iggy Pop. C'est un groupe qui a été formé en 2001, notamment autour du chanteur Lei Kakatai. Leur style, c'est du métal alternatif avec des influences hard rock, post-grunge, et puis des influences qui s'élargissent. Vous allez voir ça tout à l'heure, on va en discuter là dans quelques instants. Alors Pop Evil, c'est un groupe qui se compose de 5 membres. On parlait du chanteur, mais il est accompagné du guitariste Dave Graves, qui est présent depuis le début, tout comme le chanteur Lei Kakatai. Il y a le bassiste Matt Dirito, qui a rejoint le groupe en 2007, le guitariste Nick Fueling, qui est là depuis 2012, et puis une batteuse, Hayley Kramer, qui est la dernière arrivée en 2016. Alors c'est un groupe qui commence tout juste à être connu en France, Pop Evil, mais outre-Atlantique, eh bien, il bénéficie déjà depuis un bon moment d'une solide réputation, avec quand même 4 singles classés numéro 1 dans les charts rock, 3 albums classés sur le podium des ventes de disques, sans compter les nombreuses dates effectuées par le combo à travers les États-Unis, où il a pu partager l'affiche avec des noms comme Five Finger Death Punch, Stone Sour, Three Day Grace, Papa Roach, Theory of Dead Man, Judas Priest, Black Label Society ou encore Blackstone Cherry, et là je vous en cite que quelques-uns. Pour ce qui est du vieux continent, c'est au printemps 2014 que Pop Evil s'était lancé à sa conquête, en assurant notamment la première partie de la tournée européenne de Five Finger Death Punch, une tournée qui s'était arrêtée à Paris où le groupe avait créé la surprise en faisant littéralement succomber le public parisien. Pas mal pour leur tout premier concert en France. Depuis, grâce aux albums Onyx parus en 2013 et Up en 2015, eh bien la popularité de Pop Evil n'a cessé de s'accroître en Europe, tout particulièrement en France, où les disques ont reçu un accueil assez unanime de la part des médias spécialisés. Aujourd'hui, c'est un 5e album que sort le groupe, album éponyme sur lequel on découvre 11 titres aussi efficaces que variés. Alors avec ce nouvel opus, Pop Evil développe plus que jamais le côté multifacette qu'il cultive déjà depuis pas mal de temps, avec des influences cette fois qui viennent aussi bien du hip-hop pour un résultat un petit peu à la Rage Against the Machine, que de l'indus, avec quelques résurgences à la ministrie, de la funk aussi, puisque on peut aussi penser par moments au Red Hot, à Incubus. Alors le son est puissant, les riffs envoient vraiment du lourd, le disque regorge de refrains imparables qui sont parfaitement taillés pour les radios américaines. C'est puissant, c'est réussi. Alors certains trouveront peut-être que le résultat est un peu trop léché. Voilà, on est sur du métal US, hein. Mais même ceux-là pourront, je pense, pas nier avoir passé un agréable moment en écoutant l'objet, dont voici un extrait avec l'explosif Walking Liars. C'est Pop Evil sur Back FM. Walking Lions sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. C'était Pop Evil avec un extrait de l'album du même nom. Ça sort aujourd'hui. Si vous aimez le métal alterno, Pop Evil, c'est un groupe incontournable que je vous invite à découvrir. Un autre groupe aussi dont on avait parlé qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Nothing More. Hein. Si vous n'avez pas encore découvert leur nouvel album, allez aussi écouter celui-ci. C'est deux gros poids lourds de la scène métal alternative du moment aux États-Unis. États-Unis et c'est vraiment très très bien. Là voilà, avec Poppy Wall, on se prend un petit coup derrière les oreilles là avec ce petit Walking Lion super bien envoyé. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller l'écoute de cet album et de ce groupe en particulier. On change de style, on change de pays, on reste sur le continent américain. Là on était au nord, on part en Amérique du Sud, on va partir direction Sao Paulo retrouver Angra qui sort aussi son nouvel album aujourd'hui, un album qui s'appelle Omni. Alors Angra, grosse carrière derrière ce groupe qui a été créé en 91, autour notamment du chanteur André Matos, du guitariste Raphaël Bitancourt, du bassiste Luis Mariutti. Un petit peu plus tard, en 93, le groupe sera rejoint par le guitariste Kiko Loureiro qui va très largement contribuer au succès d'Angra. Et donc voilà, ça c'est un line-up qui a énormément changé depuis cette époque. Il y a eu des remaniements nombreux et importants. Et aujourd'hui, Angra se compose de l'ex-chanteur de Rhapsody Fabiole Lyonnais, des guitaristes Raphaël Bitancourt et Marcello Barbosa, du bassiste Felipe Andreoli et du batteur Bruno Valverde. Donc vous voyez, il n'y a plus qu'un seul membre de l'équipe du départ. Hein. C'est pour vous dire si les changements ont été nombreux et si ça a compté dans la carrière du groupe. Alors pour ce qui est du style d'Angra, on est sur un heavy metal multicolore, multifacette, dans lequel on va retrouver des influences power bien sûr, mais aussi beaucoup d'influences metal progressif, metal symphonique. On va retrouver des sonorités qui font référence à la musique brésilienne avec l'utilisation d'instruments comme les congas, le berimbo, les claves. Voilà, c'est ça, hein, c'est alors c'est marrant parce que les groupes brésiliens sont assez forts pour mettre toujours des sonorités brésiliennes. Ben, on pense évidemment bien sûr à Sepultura. Côté discographie, le groupe avait sorti une démo, Reaching the Horizon, en 92, qui avait reçu un accueil assez favorable. Et puis l'année suivante, c'était un premier album qui paraissait, qui s'appelait Angel's Cry. Alors là encore, accueil très très favorable de la part de la critique. Mais c'est avec le suivant, Holy Lands, qui arrive en 96, que Angra va connaître la consécration, tout simplement. Ils vont voir leur popularité exploser, et un succès qui va pas du tout se démentir avec la sortie de Fireworks en 88 qui va se classer parmi les meilleures ventes d'albums par exemple en France. Pourtant, malgré cet apogée, des problèmes de management, de divergences musicales et d'ordre personnel vont apparaître. Ça va être en 2000. Trois des membres du groupe, dont le chanteur André Matos, vont décider de quitter le navire. Et c'est donc une période beaucoup moins faste, beaucoup plus tumultueuse qui va débuter pour Angra. Alors il suffit d'écouter Rebirth qui était sorti en 2001. Qui est le premier album du groupe avec le chanteur Edu Falaschi et puis aussi ses successeurs pour s'en rendre compte. Il y aura quand même une éclaircie dans tout ça en 2014 avec la sortie de Secret Garden, un album sur lequel on retrouve désormais l'italien Fabiole Lyonnais au chant, mais une chose est sûre, on est encore bien loin de la qualité des premiers disques du groupe, ceux de la grande époque. Alors du coup, à quoi on peut s'attendre avec Omni qui paraît aujourd'hui? Est-ce que ce 9e album studio des Brésiliens va être une nouvelle déception? D'autant que le groupe s'est entre-temps séparé d'un de ses membres forts, le guitariste Kiko Loureiro. Eh bien, bon, c'est pas tout à fait une déception, c'est même plutôt une assez agréable surprise, puisque, alors, même si Omni s'avère effectivement assez inégal, il nous offre quand même quelques beaux moments de bravoure durant lesquels on retrouve la flamboyance, la diversité musicale qu'on a tant aimé chez Angra, produit tout comme son prédécesseur par le Suédois Jens Bogren. Omni, c'est un concept album qui est composé d'une série d'histoires courtes de science-fiction qui ont lieu à différents endroits simultanément et qui sont l'occasion pour le groupe de mélanger heavy metal, musique traditionnelle brésilienne et classique, influence progressive, trash, djent. Alors c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais le groupe a surtout pas à rougir de ce nouvel opus sur lequel on ressent vraiment l'investissement des musiciens pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et qui sait, peut-être que le prochain sera enfin le chef-d'œuvre qu'on attend tous depuis une vingtaine d'années. Voici tout de suite un extrait de Omni. On écoute Angra avec le morceau Travelers of Time. Ah! Angra avec un morceau presque space opéra, un morceau qui s'appelle Travelers of Time, je vais vous le prononcer correctement. C'est un extrait de l'album Omni qui paraît aujourd'hui. Vous êtes bien sûr sur Bac FM 106.1 dans l'émission Metal Check Me Load. Donc voilà, Angra qui nous sort un album bon bah avec quelques imperfections, quelques inégalités, mais quand même quelques beaux morceaux comme celui qu'on vient d'écouter, où on pense presque à Aireon, à Avantasia, voilà, des pour le coup à des opéras métal. Donc à découvrir, c'est Fabio Lyonnais, l'ex Rhapsody que vous avez entendu au chant. On passe à la rubrique News from Hell, la rubrique sur l'actu métal avec pas mal de choses aujourd'hui, et on va commencer par deux mauvaises nouvelles pour débuter cette page news. La première, c'est l'annonce lundi du retrait du guitariste Glenn Tripton de la prochaine tournée de Judas Priest à moins d'un mois de la sortie du nouvel album du mythique combo de Birmingham. Alors Glenn Tipton qui a rejoint les rangs de Judas Priest en 74 et a donc participé à l'enregistrement de tous les albums du combo, a été diagnostiqué il y a une dizaine d'années comme présentant les premiers signes de la maladie de Parkinson. Jusqu'à présent, ça n'avait en rien affecté son jeu de guitare, mais le musicien âgé aujourd'hui de 70 ans n'est plus en mesure de jouer tous les morceaux du répertoire du groupe. Il préfère donc se retirer de la prochaine tournée durant laquelle il sera remplacé par Andy Snip, qui est surtout connu pour son travail en tant que producteur. C'est d'ailleurs lui qui produit Firepower, le nouveau Judas Priest, qui va sortir le 9 mars. À noter à l'occasion que l'unique date française des Britanniques, ce sera leur passage le 22 juin au Hellfest. Quant à Glenn Tipton, selon l'évolution et la stabilisation de sa maladie, il n'exclut pas de remonter un jour sur scène avec Judas Priest. La maladie de Parkinson qui est tristement d'actualité ces temps-ci, puisque quelques jours avant, on apprenait la disparition à l'âge de 64 ans du batteur Pat Torpey, membre fondateur du groupe de hard rock américain Mr. Big, et bien des suites également de cette foutue maladie de Parkinson. C'est en 2014 qu'il avait annoncé souffrir de Parkinson. Il avait néanmoins assuré la tournée de promo de l'album The Stories We Call Tell entre 2014 et 2015, mais il a pu enregistrer que quelques titres du dernier album Defying Gravity qui est paru cet été, où il avait été secondé par Matt Starr. Alors pour les auditeurs les plus jeunes, Mr. Big, c'est un groupe qui a vu le jour en 88 à Los Angeles. C'est quatre musiciens virtuoses, le chanteur Eric Martin, le guitariste Paul Gilbert, qui est célèbre pour avoir joué un solo de guitare avec une perceuse, le bassiste Billy Sheehan et donc le batteur Pat Torpey. Et si le groupe s'est surtout distingué pour une ballade, To Be With You, qui a été un très gros succès commercial, et puis aussi pour sa reprise de la chanson Wild World de Cat Stevens, il s'est également illustré avec deux albums que je vous conseille. Il y avait Learning to Eat en 91 et puis Bump Ahead en 93. Un peu plus réjouissant maintenant, on retrouvera prochainement à l'affiche James Hetfield, puisque le chanteur de Metallica est actuellement en plein tournage d'un biopic qui retrace la vie du tueur en série Ted Bundy. Alors si James Hetfield est déjà apparu sur les écrans de cinéma dans Through the Never, qui a été un flop retentissant, et dans le documentaire Some Kind of Monster, que vous pouvez voir sur Netflix d'ailleurs, c'est la première fois qu'il va incarner un autre rôle que le sien, puisque dans le film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, il jouera le rôle de Bob Hayward, premier officier à arrêter Ted Bundy dans l'Utah en 75. Alors c'est Zac Efron de chez Disney qui incarnera le serial killer. Et puis figureront également au casting John Malkovich, Hayley Joel Osment, qu'on a vu dans Sixième Sens quand il était petit, Kaya Scodelario, qu'on a vu dans la série Skins, et Jim Parsons, ça c'est plus étonnant qu'on connaît pour la série The Big Bang Theory. En attendant de voir James Hetfield au cinéma, eh bien rendez-vous ce soir sur la chaîne Arte qui diffusera un documentaire consacré à Kurt Cobain intitulé Kurt Cobain Montage of Ache. C'est un documentaire qui a été sorti en 2015, qui avait été projeté dans une poignée de salles de cinéma en France. Alors le film nous raconte la vie de Kurt Cobain de sa naissance à sa mort à travers de nombreuses archives inédites confiées au réalisateur Brett Morgan par les proches du chanteur, dont sa fille qui témoigne d'ailleurs, ou sa mère. Alors c'est à voir ce soir à 23h sur Arte. Arte qui nous propose des tas de choses bien en ce moment, puisque par exemple vendredi dernier il rediffusait un autre doc, c'était Guns N' Roses, le groupe le plus dangereux du monde. Et puis la nouvelle est tombée mercredi, le nouvel album studio de Trust va arriver dans les bacs fin mars. Après l'annonce de sa reformation en 2016 et puis la tournée qui a suivi, dont est issu l'album live enregistré au Hellfest, Trust compte pas s'arrêter en si bon chemin et a annoncé donc la sortie d'un album intitulé dans le même sang. Il est prévu pour le 30 mars. Il s'agit du premier album studio du groupe depuis 10 ans. C'est un disque qui a été produit par Mike Fraser, qui a bossé avec AC/DC, avec Aerosmith notamment, et sur lequel on retrouvera le même line-up que la tournée, c'est-à-dire les membres fondateurs Bernie Bonvoisin au chant et Nono Krief à la guitare, et puis David Jacob à la basse, Iso Diop à la guitare et Chris Dupuis à la batterie. Plus d'informations concernant le contenu de l'album seront prochainement révélées et bien sûr on en reparlera dans Check Me Load. On termine avec des nouvelles du prochain album de Perfect Circle. Alors on sait désormais que son titre sera Eat the Elephant et qu'il va sortir le 20 avril. Le combo californien mené par Maida James Kenan a profité de cette annonce pour révéler un troisième titre issu de ce nouvel opus. Un titre qui s'intitule Talk Talk et que je vous propose d'écouter tout de suite sur Back FM. Ensuite, on recevra le groupe Holly Spark.
We're bleeding out.
Perfect Circle sur Bac FM 106.1, le titre Talk Talk, nouvel extrait de l'album à paraître le 20 avril, album qui s'intitulera, on le sait désormais, It's the Elephant. Vous êtes toujours sur Bac FM 106.1 dans l'émission Check Me Load et j'espère que ça vous a plu ce nouvel extrait de A Perfect Circle. Il est l'heure de retrouver l'interview du jour. Aujourd'hui, je vais vous proposer du rock. Ça va nous changer un petit peu du métal. Alors, c'est un rock, attention, avec quand même des influences un peu métal à l'intérieur. C'est du rock alternatif. Un groupe qui vient de Lille, qui s'appelle Holy Spark. Ils sont 5. Ils avaient sorti un premier EP en 2016, qui s'appelait The Harvest. Ils sont de retour depuis le 2 février, avec cette fois un premier album qui s'appelle Sonic Bloom. C'est un groupe qui a énormément évolué depuis son premier EP. Et donc j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Manon, la chanteuse, il y a quelques jours. Je vous propose de retrouver cette interview. Juste avant, pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter un extrait de l'album, un morceau qui s'appelle Hope. Voici tout de suite Holy Spark. Sur Bac FM 106.1 dans l'émission Check Me Load, et je vous avais promis tout à l'heure en début d'émission une interview. Et bien ça y est, l'heure est venue de recevoir Manon, qui est chanteuse donc du groupe Holy Spark. Bonjour Manon.
Salut.
Pour commencer l'interview, alors j'imagine qu'on t'a posé 15 000 fois la question aujourd'hui, mais je te propose qu'on fasse un petit peu les présentations. Donc, vous venez de la région de Lille, c'est ça?
Exactement, oui, c'est ça, du Nord-Pas-de-Calais.
Voilà, désormais, vous évoluez sous forme de quintette. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment est né le groupe Hollis Park, qui était un trio au départ, hein, je crois?
Oui, c'est ça. Alors, en fait, à la base, Kevin, Rock et moi-même, on était dans un autre groupe qui s'appelait Over Eden et qui, malheureusement, pour raison X ou Y, on a décidé de se séparer parce que on s'entendait plus sur les références qu'on avait qui n'étaient plus similaires et qu'on n'arrivait plus à transcrire dans les chansons. Et après cette séparation, on a décidé de former Hollis Park parce que tous les trois, on était quand même relativement d'accord sur ce qu'on aimait, ce qu'on voulait transmettre. Et du coup, voilà, on a décidé de créer Hollis Park. Et ça s'est très bien passé. Pour l'EP, on l'a enregistré donc à trois. Malheureusement, sur scène, trois, c'était pas suffisant parce qu'on avait basse et une seconde guitare à défendre.
Donc, d'accord.
On s'est accompagné de Nico et Max, qui sont maintenant membres du groupe à part entière. Et voilà, depuis maintenant, c'était en fin des vacances 2016. Donc après notre tournée en Corse, comme ça s'est super bien passé, on a bien déconné, on a vécu des galères ensemble, on a décidé de finalement les intégrer au groupe. Et maintenant, tout roule comme sur des roulettes, même si on a synchro.
D'accord. Donc aujourd'hui, le groupe se compose, donc toi tu es au chant, il y a Kevin à la guitare ainsi que Nico, Maxime à la basse et Rock à la batterie, c'est ça?
Exactement, c'est ça.
Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler un peu plus en détail de votre premier album qui s'appelle Sonic Bloom, qui nous intéresse aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots sur le style musical de Hollis Park et puis sur vos influences. Alors si je dis que Hollis Park c'est du rock alternatif avec des influences qui viennent plutôt des États-Unis, est-ce que je me trompe?
Non, pas du tout, dans le mille. Chacun, c'est un peu ce qu'on écoute. Hein. On est plus, concrètement, on est plus dans le rock, hein. Donc ouais. Américain ou après anglo-saxon. Mais c'est dans ces zones-là qu'on est le plus confortable.
Et c'est quoi, par exemple, les groupes que vous écoutez chacun? Est-ce que vous avez est-ce que vous écoutez des choses différentes ou est-ce qu'il y a vraiment des groupes qui mettent tout le monde d'accord au sein de Hollis Park?
C'est les deux. Alors. Kevin et Nico sont plus métal, donc ils écoutent Périphérie, Tesseract ou des trucs comme ça. Rock est plutôt AC/DC, mais bon, finalement, il se plaît aussi à écouter du Paramore ou du Pharo ou du Biffy Clyro aussi qu'on écoute tous ensemble, qui nous met plutôt d'accord. Max est plutôt punk. Après, moi personnellement, si t'es des groupes de punk, j'en connais pas énormément. Et moi, je suis plutôt pop alternatif. J'écoute des petits artistes dans des playlists un peu à droite à gauche. Même si, principalement, je suis plutôt Lana Del Rey, Lorde ou Florence and the Machine.
D'accord.
Beaucoup de filles aussi en musique.
Alors, le 2 février, vous avez sorti votre premier véritable album. Il s'intitule Sonic Bloom. Il avait été précédé en 2016 par un EP, The Harvest. Et ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre ces deux productions, l'évolution, elle est quand même impressionnante. Le ton, il est donné dès l'artwork, hein, puisqu'on a vu une pochette très colorée avec The Harvest. Là, on passe à une pochette sombre avec Sonic Bloom. Et puis, tout ça, ça se confirme sur les nouvelles compos. Je trouve que le ton s'est durci, la musique, elle est plus rentre dedans. L'ensemble, il est aussi plus mature, plus homogène. Alors comment est-ce que vous l'avez appréhendé, la composition et puis l'enregistrement aussi de ce premier album?
C'était effrayant. Parce qu'en fait, après l'EP, au moment de l'EP, on était tous les trois. Donc on s'entendait bien, on se connaissait depuis un moment, on avait partagé des moments ensemble. Donc voilà, c'était la continuité. On avait des titres déjà en boîte et qu'on voulait simplement mettre sur CD et finalement est arrivé The Harvest. Pour l'album, on a dû prendre les choses différemment puisque on avait intégré dans l'équipe Nico et Max. Donc évidemment, il y avait des choses qu'on connaissait pas sur eux. Donc on a dû se découvrir aussi, se dévoiler. On a partagé beaucoup de choses ensemble, mais pas toujours des choses personnelles. Là, on s'est vraiment mis en autarcie dans notre petite bulle, tous les cinq, dans laquelle personne n'avait le droit de mettre son grain de sel et personne n'avait le droit de donner son avis. On était vraiment uniquement à cinq. Pour composer, donc c'était cool, ça nous a fait du bien, on en avait besoin, et d'ailleurs d'où le fait de la sphère en fait que j'aime représenter maintenant comme la bulle dans laquelle on était en fait.
Hein, d'accord.
Qui est l'image
de la pochette.
Du fond de la pochette, ouais, voilà, c'est ça. Donc nous, on est voilà les petits arbres un petit peu au chaud en train de concocter notre petite pépite qu'est l'album quoi, notre petit bébé.
Et comment ça se répartit les rôles de composition? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va amener des riffs et puis tout le monde va venir ajouter sa patte?
Ouais, c'est quasiment ça en fait. C'était souvent les guitaristes, donc Kevin et Nico, qui nous ramenaient un riff et sur lesquels ensuite on s'amusait, mais on se rejoignait quand même pour les répètes. On passait des heures et des heures par semaine à faire tourner les morceaux en boucle, à trouver des arrangements, parce que parfois on avait simplement un couplet ou parfois on avait simplement un refrain. Donc on ramenait chacun nos idées. Parfois il y avait uniquement une ligne de basse sur le pont qu'on est venu ensuite rajouter les guitares, la batterie, le chant. Parfois pas de chant. Voilà, on a vraiment composé à cinq, toujours réunis.
Et ce que j'ai beaucoup apprécié sur vos chansons, c'est que les arrangements sont très soignés. Il y a beaucoup de mélodies.
Bah c'est dingue parce que c'est un truc qui ressort beaucoup. C'est ce qu'on nous dit. Alors après, l'expliquer, je ne sais pas. Je pense que c'est aussi le fait que tous les cinq, on discute beaucoup. On échange beaucoup, on en a besoin. On aime savoir que tout le monde est d'accord avec ce qui se passe. Tout le monde sait concrètement de quoi on parle, quel message on veut passer dans chaque morceau. On
ouais.
est tous au courant. Donc ce qui fait que c'est bien parce que finalement, on peut tous l'expliquer clairement. Et on peut se faire confiance aussi.
Et justement, de quoi elles parlent les chansons de Sonic Bloom? Est-ce que c'est toi qui en es l'auteur?
Ouais, alors je suis principal auteur, je crois, il me semble. Parce que sur l'EP, il y avait eu un partage. Rock avait écrit certains textes.
D'accord.
Là, pour l'album, oui, j'ai préféré m'y mettre à fond seule. Bon, après, les garçons ont pu intervenir à moindre échelle, puisque bon, on sait tous qu'une chanteuse, c'est souvent renfermée sur soi et... elle pense toujours avoir raison, donc voilà. Malgré moi, ça n'a pas changé avec mes textes. Ça parle de l'optimisme que je rencontre pas souvent au quotidien, en fait, parce que quand je parle ou quand j'allume la télé, souvent les gens se plaignent, les gens sont pas contents de ce qui se passe. Voilà, c'est des petits détails de la vie quotidienne que j'aime mettre en avant et me dire que bah, la vie elle est comme ça, quoi. Il y a du bon, il y a du mauvais dans tout, mais faut savoir relativiser. C'est les trois quarts des thèmes, des textes.
Avec tout de même un message finalement positif, puisque l'album s'appelle Sonic Bloom, et Bloom, c'est la floraison, c'est ça?
Ouais, c'est l'idée. Alors, on aimait dire que, voilà, la graine, c'était un peu notre projet, quoi. La graine, c'est un peu notre cœur, ce qu'on a au fond de nous, qui ne demande qu'à grandir et qu'à s'épanouir, finalement, qu'il faut entretenir, qu'il faut arroser, qu'il faut... parfois apprendre à la laisser seule grandir. Ouais, c'est un peu toute cette image de floraison qui nous parle.
Alors, en septembre dernier, vous aviez publié sur YouTube une reprise du morceau Believer d'Imagine Dragons, qui est vraiment très réussi. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné l'intégrer à l'album?
Non.
Non.
En fait, on avait déjà enregistré l'album bien avant. On l'a fini d'enregistrer au mois de mai, si je me trompe pas, à peu près. Non, la reprise, c'était vraiment parce qu'en fait, on n'avait pas eu beaucoup de contenu ces derniers temps. Comme souvent, quand un groupe écrit un album, il se passe pas beaucoup d'actualité autour. Hein. On sait très bien comment ouais. ça se passe. Chaque groupe a besoin de se remettre un peu dans son monde, quoi. Et ça n'a pas manqué avec nous. Non, c'était vraiment une reprise qui était dans l'air du temps, puisqu'elle passait à cette époque à la radio et tout le monde l'entendait, la chantait. Et on avait envie juste... d'y mettre notre patte et de la partager, mais d'une façon différente, avec la petite touche Holly Park.
En tout cas, elle est très réussie, hein, cette reprise.
Merci.
Félicitations. Donc, 2 mois plus tard, cette fois-ci, on a pu découvrir le clip de la chanson Sunset, donc un extrait de l'album. Et je crois que vous avez travaillé avec les frères Potvin dessus. Alors, c'est des musiciens, producteurs qui sont très, très reconnus de la scène rock metal. Ça a été quoi leur rôle pour le clip?
Ben ils l'ont complètement produit.
D'accord. Et ben tu vois, je savais pas qu'ils produisaient de la vidéo en fait.
Ben je sais qu'ils l'ont fait pour certains projets. Des amis à nous qui sont Generali, ils avaient produit un de leurs clips aussi. Ils sont nos éditeurs et en fait ils nous ont dit bah écoutez pour premier clip, pour sortir avec l'album, ce serait sympa d'avoir du visuel, d'avoir quelque chose. Et ils nous ont dit, bah, venez à Angers et puis on s'arrange, on va trouver une idée, ça va bien se passer. Et finalement, ça a été comme sur des roulettes. Ils ont été super agréables, très directifs, parce que bon, on n'a pas beaucoup de clips derrière nous et on en avait besoin. On a besoin d'être cadrés pour certaines choses, parce que bon, on n'excelle pas dans ce domaine, donc il y avait du travail, mais ça s'est super bien passé.
Puis c'est important, peut-être aussi à notre époque, de pouvoir compter aussi sur l'image.
Bah oui, parce que finalement, on voit plus qu'on écoute.
Oui, c'est ça.
Bizarrement, c'est bête, mais on passe notre temps sur YouTube à regarder des vidéos, sur Instagram à regarder des photos. C'est le visuel, le tape à l'œil qui marche en ce moment, j'ai l'impression.
Sonic Bloom, pour en revenir à l'album, il est sorti sur le label Send the Wood Records, qui est basé à Montpellier. Comment ça s'est passé? C'est vous qui avez démarché plusieurs labels ou c'est eux qui sont venus dire, bah tiens, on vous produirait bien?
Ben, c'est les frères, c'est sous le conseil des frères Potvin qu'on a su trouver quelques contacts à droite à gauche et non, on l'a envoyé à plusieurs labels, on a envoyé, je sais plus qui exactement parce que c'est pas moi qui m'occupe de tout ça. Mais je sais que Rock a envoyé pas mal de mails et finalement, ils ont eu un retour plutôt rapide et positif, qui est rassurant quoi pour nous parce qu'on est un petit groupe et on en avait besoin. Quoi. On a besoin d'entendre des choses positives parce que il y a plein de groupes, finalement. On n'est pas... j'ai pas envie de dire on n'est pas différent des autres, mais bon, on n'apporte pas la même chose chaque groupe à part entière, quoi. Et ça nous a fait du bien d'avoir enfin quelque chose de concret.
Ça va aussi vous apporter une belle visibilité niveau distribution, parce que du coup, vous allez être distribué par Season of Mist. Hein.
Oui, c'est ça. C'est ça. Donc normalement, on va être distribué dans les Cultura, dans les Fnac, sur toutes les plateformes aussi, Spotify, sur iTunes. On est également sur Amazon, je sais. Donc c'est cool. On peut nous écouter partout.
Partout à travers le monde.
C'est ça.
Alors, vous avez déjà commencé à défendre Sonic Bloom sur scène, puisqu'il y a pas mal de concerts qui ont déjà eu lieu, qui sont prévus jusque fin mars. Pour l'instant, vous avez joué, alors surtout dans le nord du pays, un petit peu en Belgique aussi, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres dates qui se profilent dans le reste de la France et de l'Europe?
Alors, en France, pour l'instant, on se cantonne principalement dans le Nord-Pas-de-Calais, puisqu'on a des contacts là-bas qui n'hésitent pas à nous contacter dès qu'ils ont un peu de temps pour nous recevoir, donc c'est toujours chouette. Et ensuite, on va aux Pays-Bas normalement au mois d'avril ou au mois de mai, je ne sais plus exactement, mais c'est pas encore concret, mais c'est pour parler d'aller à Amsterdam, et du coup, sur cette route, peut-être faire quelques dates en Belgique, et on aimerait bien aussi faire les pays nordiques, hein, l'Allemagne, c'est intéressant pour nous... ou l'Angleterre, qui n'est pas si loin, finalement, du Nord-Pas-de-Calais.
Ouais.
C'est un travail, peut-être qu'on essaie de booker une tournée d'une semaine en Angleterre, donc on croise les doigts.
Et vous êtes super bien placé, finalement, en étant Nord-Pas-de-Calais. Hein.
Ouais, c'est clair, on est vraiment au centre des pays qui sont plus susceptibles d'aimer le rock.
C'est ça.
Ouais, j'avoue.
Alors, nous, on attend, en tout cas, vous êtes cordialement invités à venir nous voir dans la Nièvre, hein, à Nevers, si vous passez par là.
Quand vous voulez, il n'y a pas de souci.
Un petit appel au programmateur des salles alentours, hein. Retenez le nom, Holly Spark. Et puis, merci Manon de nous avoir accordé du temps pour nous parler de ce premier album qui est disponible depuis le 2 février, ça s'appelle Sonic Bloom. On va se quitter avec un extrait, on ne peut pas faire autrement.
Bah ouais, bien sûr.
Alors, du coup,
ça me ferait très plaisir.
Je te propose qu'on se quitte avec Sunset. Ça te va?
Allez, c'est parti.
Et ben merci encore Manon.
Merci beaucoup Laetitia.
Puis on se dit à une prochaine interview alors.
Merci, ouais, ça marche, pas de soucis. À bientôt.
Salut.
To go.
Sparks sur Back FM avec le titre Sunset, extrait du premier album du groupe disponible depuis le 2 février. C'est Sonic Bloom, le titre de cet album, qui est donc disponible via Send the Wood Records, distribué par Season of Mist. Si vous venez de nous rejoindre sur Back FM, il y a quelques temps, on était en compagnie de Manon, la chanteuse du groupe, donc pour parler et de la carrière de Holly Spark et de ce nouvel album que je vous conseille. Eh bien, ça y est, on arrive déjà au terme de cette émission. On arrive à la rubrique Sortez Cover. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de la splendeur passée d'Angra, de son époque étincelante, j'aimerais qu'on termine cette émission en se replongeant dans les débuts du groupe brésilien et en mettant à l'honneur de cette rubrique, donc, une très belle reprise de la chanson Wuthering Heights qui a rendu célèbre la chanteuse britannique Kate Bush à la toute fin des années 70, puisque c'est en effet en janvier 78 que sort le 45 tours de la chanson Wuthering Heights, qui est le tout premier single de la toute jeune Kate Bush, le titre qui apparaît ensuite sur l'album The Kick Inside, qui lui arrive en février 78, a été composé 2 ans plus tôt, alors que la chanteuse était âgée seulement de 18 ans, et elle a composé ça après qu'elle ait vu l'adaptation à la télévision du roman Les Odes Hurlevents d'Emily Brontë, dont le titre original est justement Wuthering Heights. Elle affirmera ensuite avoir écrit la chanson en seulement quelques heures, tard dans la nuit, en regardant la lune à travers une fenêtre de sa chambre pour trouver l'inspiration. Que de poésie! D'ailleurs, les paroles sont ouvertement inspirées des pensées de Catherine Earnshaw, le personnage principal du roman. Alors, aussi bien dans les chœurs, puisque Kate Bush reprend la célèbre phrase Let me in, I'm so cold, que dans les couplets qui reprennent la confession de Catherine, avouant à sa servante qu'elle a des cauchemars. Le 45 tours va rapidement devenir numéro 1 des charts anglais, ravissant ainsi la première place à la chanson Take a Chance on Me du groupe ABBA, et faisant aussi de Kate Bush par la même occasion la toute première femme de l'histoire à voir une chanson qu'elle a elle-même écrite et interprétée devenir numéro 1 du top anglais. Le morceau va ensuite connaître un succès interplanétaire, il va se classer à la première place des charts en Australie, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et puis en Italie. En France, elle se hissera la chanson jusqu'à la 14e place de ce qui a précédé le top 50, parce qu'on n'était pas, ça n'existait pas encore le top 50, je crois en 78. De quoi faire amende honorable à EMI, le label de la chanteuse, qui croyait pas du tout au potentiel de ce titre et qui voulait en imposer un autre en guise de premier single. Donc, pour se faire pardonner, EMI va lui offrir l'année suivante un piano Steinway et va surtout reconnaître s'être totalement planté. Comme tout succès, Wuthering Heights a été reprise un nombre incalculable de fois dans tous les styles et à toutes les sauces, mais la meilleure version, et je le dis sans aucune objectivité, c'est celle du groupe Angra, qu'on retrouve donc sur Angels Cries, le tout premier album du groupe paru en 93, interprété avec autant de délicatesse que de puissance par le chanteur virtuose André Matos. Wuthering Heights prend une toute nouvelle dimension et parvient même à nous filer des frissons dans cette version des Brésiliens. Voilà, avant de lancer le morceau, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, de bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir. Rendez-vous dans 2 semaines pour de nouvelles aventures métal. Juste un petit rappel aussi, si vous avez loupé l'émission spéciale Weapons of Mass Percussion avec Les Tambours du Bronx, Renaud de Lofo, Stéphane Burier de Load Blast et Frankie Costanza de Blazing War Machine, elle est en podcast sur Back FM, vous pouvez l'écouter. Voilà, tout est dit, voici Wuthering Heights, revu et corrigé par Angra. Salut à tous, à très bientôt sur Back FM. Possess you.
Ouais.